Louis-Marie, qu'est-ce qui a retenu votre attention parmi les sorties ciné de la semaine ?
Un thriller horrifique et le quotidien d'un déclassé volontaire.
Un thriller horrifique, alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Parce que là, c'est pas Halloween et vous nous faites peur.
C'est Retour à Silent Hill, qui marque le retour très attendu de Christophe Gans, derrière la caméra, figure majeure de la pop culture française et réalisateur reconnu pour Crying Freeman, Le Pacte des Loups ou Silent Hill, c'était en 2006 l'une des rares adaptations du jeu vidéo jugée convaincante. Après de nombreux projets avortés, il revient avec une adaptation libre de la nouvelle version du jeu Silent Hill 2, centrée sur James Sunderland. L'homme se rend dans la ville maudite après avoir reçu une lettre de sa femme décédée, Marie. En partant à sa recherche, James va affronter des créatures monstrueuses et découvre une vérité terrifiante qui le poussera aux limites de la folie. Pour pouvoir adapter une œuvre, Christophe Gans doit trouver un point d'entrée. Ici, c'est le mythe d'Orphée ou encore Sueur froide d'Alfred Hitchcock qu'il a trouvé les éléments sur lesquels appuyer son récit.
Orphée de Cocteau, j'y pensais énormément. C'est l'un des deux apports que j'ai, parce que le jeu Silent Hill 2 contient une note déjà lui-même, beaucoup de références cinématographiques, énormément. Mais moi, les deux références que j'ai amenées qui ne sont pas dans le jeu, c'est Orphée de Cocteau et c'est Sueur froide d'Alfred Hitchcock. Qui sont les deux, alors pour le coup, les deux références qui me représentent moi, en fait, qui sont mes points d'entrée à l'intérieur du récit de Silent Hill.
Pensé comme une œuvre autonome, le film reprend les grandes lignes, personnages et thèmes du jeu original, mais assume de ne pas en restituer toute la profondeur psychologique et l'angoisse. Christophe Gans privilégie une approche de tragédie romantique et onirique au détriment de l'horreur et du malaise qui faisaient la force de la licence. Le récit, parfois trop explicatif, sacrifie le mystère, la tension et le développement des personnages secondaires. Malgré un design fidèle et une direction artistique globalement réussie, le film souffre d'un budget limité et d'effets numériques inégaux, rendant de nombreuses créatures peu convaincantes. La mise en scène propose parfois de belles idées, mais l'ensemble reste narrativement opaque, plutôt confus à cause d'ajouts parfois discutables, comme la présence de la secte entièrement décimée dans l'adaptation de 2006. Si les acteurs principaux s'en sortent honorablement, Jeremy Irvine livre une interprétation crédible de James Sunderland et que la musique d'Akira Yamaoka reste fidèle à l'esprit de la saga, renforçant la plongée psychologique du récit, le film ne parvient à trouver son véritable souffle que dans son climax et son épilogue. Retour à Silent Hill apparaît ainsi comme une adaptation respectueuse dans l'intention mais décevante dans l'exécution, laissant le spectateur, qu'il soit connaisseur du jeu ou pas, passablement frustré.
En commençant cette chronique, Louis-Marie, vous parliez du quotidien d'un déclassé volontaire. Qu'est-ce que c'est un déclassé volontaire, Louis-Marie ?
Eh bien, la réponse est dans le pitch de À pied d'œuvre, le nouveau film de Valérie Donzelli. Achever un texte ne veut pas dire être publié. Être publié ne veut pas dire être lu. Être lu ne veut pas dire être aimé. Être aimé ne veut pas dire avoir du succès. Avoir du succès n'augure aucune fortune. L'histoire vraie d'un photographe renommé qui abandonne tout pour se consacrer à l'écriture et découvre la pauvreté. D'une radicalité discrète à pied d'œuvre est l'adaptation du récit autobiographique de Franck Courtès. Il est donc question de Paul, un photographe reconnu qui renonce volontairement au confort et à la reconnaissance sociale pour se consacrer à l'écriture. Qu'est-ce qui a donné envie à Valérie Donzelli d'adapter cet ouvrage ? Voilà sa réponse.
Ce qui m'a donné envie, c'est d'abord la qualité de son écriture. J'aime le style qu'il a comme écrivain. Et cette écriture, je trouvais qu'elle était très juste pour raconter des choses de façon très simple, qu'on comprenait tous, sur cette ubérisation du monde et en même temps sur la difficulté de vivre de son art. Bien évidemment, ça m'a parlé parce que moi, je viens d'un milieu artistique. Mon grand-père était peintre, immigré italien. Son père était peintre, sculpteur. Enfin, c'est une famille de peintres et de sculpteurs. Mon père a grandi dans une grande précarité parce que mon grand-père vivait de son art mais de façon très modeste. Son père l'a découragé à continuer dans cette voie artistique en disant que c'était trop difficile. Et moi, quand j'ai arrêté mes études d'architecture pour m'engager dans une voie plus précaire qui est celle d'acteur, on ne sait pas du tout si ça va marcher ou pas. Il n'y a pas de règles par rapport à ça. En plus, j'étais quand même pas toute jeune et tout. Il a été très inquiet et il m'a un peu sermonné comme le père du film. Donc, quand j'ai lu ce livre, tout ça a allumé plein de petites ampoules en moi et j'ai eu l'impression que c'était ça que j'avais envie de raconter à ce moment-là.
Le film de Valérie Donzelli interroge la survie de l'artiste dans un monde contemporain marqué par la précarité. À travers le personnage de Paul Marquet, écrivain interprété par Bastien Bouillon et inspiré du parcours autobiographique de Franck Courtès, le film décrit le choix aussi intime que radical d'abandonner une situation stable pour se consacrer à l'écriture au prix d'une pauvreté assumée. Pour préserver ses matinées d'écriture, Paul enchaîne les petits boulots précaires dictés par une plateforme numérique, acceptant l'épuisement physique, le déclassement social et un mépris de classe latent. Sans jamais sombrer dans le misérabilisme, Donzelli filme une fatigue diffuse et une violence silencieuse inscrite dans les gestes du quotidien. Le film met en lumière le sacrifice intérieur consenti par Paul, s'effacer socialement pour préserver un espace intime où l'écriture peut exister. Peu à peu, cette expérience de la précarité devient matière artistique. Paul transforme ce qu'il endure en autofiction, réorganisant le réel pour lui donner sens. La mise en scène traduit cette transfiguration par touches discrètes. Rupture de ton, suspension du temps, images en super 8 pour évoquer les souvenirs et les lieux chargés d'émotions, sans oublier les cadrages qui placent Paul en observateur du monde. Autour de Bastien Bouillon, bouleversant de lucidité et de détermination, les seconds rôles incarnent chacun une facette de cette distance grandissante. Bienveillance lucide, résignation, incompréhension ou retrait protecteur. À pied d'œuvre esquisse ainsi la condition de l'écrivain et, plus largement, de l'artiste contemporain pris dans l'ubérisation du travail. Le film affirme l'écriture comme un acte de résistance intime et politique, une manière de sublimer la violence sociale et de reconquérir une liberté que le système promet tout en la refusant.